de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Nous allons parler aujourd'hui de la 78e édition du Festival de Cannes qui débute. Sophia, tu vas nous parler du film d'ouverture.
Oui Vincent, je vais vous parler de Partir un jour, le premier film d'Amélie Bonin.
Nous aurons aussi l'occasion de jouer à un blind test avec les Palmes d'Or du Festival de Cannes. C'est une habitude que nous avons. Et vous deux, chers messieurs, vous avez deux films.
Donc moi j'ai Les Musiciens et puis Accident Domestique.
Et puis toi Guillaume?
Moi j'ai Balle perdue 3 et Transmitzvah.
Quatre virtuoses recrutées pour un concert avec des Stradivarius sont incapables de jouer ensemble, nous parlons des musiciens.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments.
Qu'est-ce qu'on va en faire?
Leur premier concert.
Un quatuor de Charlie Beaumont, j'en ai jamais entendu parler.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été joué.
Je vais le faire. Premier violon, j'imagine.
Oui.
Après L'air de rien et Les parfums, Grégory Mann continue de creuser un sillon autour des films, on va dire, de métier, se focalisant à nouveau sur des personnages en action dans leur fonction. Après Les chansonniers et Les parfumeurs, voici donc Les musiciens pour un film qui débute par un très beau plan à l'intérieur d'un violon, pendant qu'un luthier, François Ettori, dans son propre rôle, peaufine la réparation d'un Stradivarius d'une valeur de quelques millions d'euros. L'éloge de l'artisanat, de la fabrication, peut s'appliquer à son propre film comme une sorte de profession de foi. Alors, fille d'un mélomane décédé à la tête d'une grosse entreprise, Astrid parvient enfin à réaliser le rêve de son père, donc réunir quatre Stradivarius pour un concert unique enregistré dans une église. Elle convainc donc quatre virtuoses, Lise, Georges, Peter et Apolline, de participer à ce projet ambitieux. Bah, le problème, c'est qu'ils sont incapables de jouer ensemble, aussi brillants soient-ils, ne s'écoutant pas les uns les autres, aveuglés par leur ego. Alors, désemparée, Astrid n'a qu'une solution, aller chercher le compositeur de la partition, Charlie Beaumont, pour sauver l'événement. Sans surprise, il trouve le moyen d'infuser une cohésion, un esprit de groupe.
Enfin, quatre bons musiciens, ça n'a jamais suffi à faire un bon quatuor. Ça se saurait.
Je crois qu'on n'est pas pareil, en fait.
Ça veut dire quoi, ça?
Apolline?
Mais fais-moi, je vous dis.
Toujours cette manie de te cacher pour travailler.
Vous vous entendez bien avec Peter?
Vous êtes observateur? On est fâché à mort.
Grégory Magne signe donc un film sans fausse note, dans les règles fixées. Les comédiens sont épatants, le scénario est équilibré entre comique de situation et étude de caractère. Et les dialogues, pointilleux, ont le côté suranné d'un cinéma à l'ancienne, rappelant parfois, alors en très très mineur, l'univers d'un genre noir. Alors au diapason, la mise en scène est au service d'un récit sur des rails. Alors c'est aussi la limite d'un film, certes très bien fabriqué et pensé, mais qui ne procure aucune surprise, aucune vibration, qui manque aussi cruellement de rythme pour rester dans un langage musical. Alors étonnamment, il finit même par se contredire dans son désir d'harmonie. Charlie Beaumont énonce une chose d'ailleurs très juste à un moment. Il dit que dans un quatuor, pour que l'ensemble sonne juste, il faut que chacun joue un peu faux. Alors c'est bien ce qu'il manque à ce film, je dirais un peu bourgeois, très qualité française, hors du temps et un petit peu hors sol, des dérapages, des moments de folie et d'excès. Alors tout est lisse et beau, la partition est impeccablement jouée, techniquement au point, mais sans beaucoup d'émotion.
Pensez à ces nuées d'étourneaux. Qu'est-ce qui se passe avec ces centaines, ces milliers d'étourneaux qui font des rondes comme ça dans le ciel? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de règles.
J'ai tout fait pour que ce concert soit magnifique et vous, vous faites tout pour que ce soit un désastre. Alors merde!
Alors Les musiciens demeurent un film plaisant, un peu snob quand même, auquel il manque cruellement un supplément d'âme pour convaincre. Alors il est sauvé quand même de l'ennui grâce à la magnifique présence d'un acteur discret que j'aime beaucoup moi, qui s'appelle Frédéric Pierrot, qui joue donc le rôle de Charlie Beaumont. Son seul personnage, je dirais, qui a un peu de densité, de complexité. Alors les autres sont bien aussi. À noter que le quatuor est quand même joué par des comédiens qui ont la double casquette. Ils sont à la fois musiciens et acteurs, ce qui les rend quand même très crédibles à l'écran. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus.
Les musiciens de Grégory Magne est en salle depuis le 7 mai. Mummy Singer, une célèbre chanteuse trans, revient en Argentine pour renouer avec sa famille yiddish et son passé. Nous parlons de trans mitzvah.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Eh ben, on est en plein festival de Cannes, hein, Vincent, donc j'ai envie de décerner la palme d'or pour ce qui est pour moi le titre de l'année, hein, trans mitzvah. Hein. Admirable jeu de mots qui est malheureusement la plus drôle proposition du film de Daniel Burman, hein, réalisateur argentin qui a du style à revendre à défaut de complètement séduire son public. Alors trans mitzvah, hein, met en scène Mummy Singer, hein, donc une célèbre chanteuse trans qui revient en Argentine pour renouer avec sa famille yiddish et son passé, comme tu l'as dit. Son enfance, alors exposée dans l'introduction, la montre lorsqu'elle était un garçon et avait refusé de suivre le chemin familial et religieux pourtant tout tracé. En effet, quand on est de confession juive, c'est très mal vu de défier les conventions en refusant de préparer sa bar mitzvah. Mais des années plus tard, et avec l'aide de son complice et frère Eduardo, elle décide enfin de célébrer ce rite de passage en organisant non pas une bar mitzvah, donc, mais une trans mitzvah.
Yo soy Rubén, el hijo menor, y todos se preparan para mi bar mitzvah. Pero estoy por cumplir 13 años, y todo está a punto de cambiar.
Alors Trans Mitzvah n'est pas clairement une comédie, même s'il épouse les contours de l'absurde et prend place dans un univers tout de suite identifié comme atypique de par sa mise en scène marquée, clairement le point positif du film. Car c'est dans cette étrangeté, parfois surréaliste, que Burman quitte les berges redoutées du film plombant à thèse pour embrasser l'esprit pétillant de son personnage principal. Alors à ce titre, il faut louer l'ensemble du casting qui est vraiment au diapason du ton du film, mais qui n'arrive pas toujours à relever paradoxalement les rôles qu'ils interprètent, qui ne sont franchement pas si passionnant que ça. Alors le personnage principal, la mamie, est assez agaçant et pleurnichard, ce qui rend difficile l'empathie pour elle, alors qu'elle devrait être justement ce qui élève totalement une histoire somme toute très classique d'affranchissement, mais qui finit par revenir dans des ornières balisées, et au contraire du personnage, plutôt conservatrice. Alors le doute subsiste, mais un total affranchissement de mamie aurait été salutaire, comme par exemple Bill Elliott face à sa condition sociale et le regard des autres lorsqu'il décide d'opter pour la danse comme moyen d'expression.
Transmitzvah, donc ce jeu de mots est en salle depuis le 14 mai. Nous ouvrons maintenant la partie de l'émission de Cinérama qui est consacrée à la 78e édition du Festival de Cannes. Et on va commencer peut-être par le début. Le film qui a été présenté en ouverture avec l'actrice-chanteuse Juliette Armanet. Et c'est un premier film, et ça c'est une première. Et c'est toi, Sophia, qui nous en parle.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
Ouvrir le Festival de Cannes, ce n'est pas rien. Et cette année, ce n'est pas un film à gros budget ou une fresque internationale qui engage les festivités, mais un film français, un tout premier long métrage pour sa réalisatrice, Partir un jour, signé Amélie Bonin. Un titre volontairement désuet, emprunté à un boys band des années 90 pour un film tout sauf daté. Adapté d'un court métrage césarisé en 2023, Partir un jour inverse sa focale initiale. Le personnage masculin du cours, qui était déjà incarné par Bastien Bouillon, cède le premier rôle ici à sa binôme, Cécile, une quadra campée encore par Juliette Armanet. La chanteuse de variété française à l'univers rétro-chic et à la voix singulière se glisse avec grâce dans ce rôle de femme, bloquée à un carrefour existentiel de sa vie, sur fond de refrains populaires. Et dès les premières minutes du métrage, on comprend que l'on ne verra pas un film comme les autres. Sur « Alors on danse » de Stromae, elle et son compagnon Sofiane, joué par Twefik Jalab, commencent à fredonner, bouger, puis lâcher prise franchement, dans un générique déroulant sa police rose, caractéristique des karaokés, et c'est tout le film qui s'ouvre en musique. Alors on chante.
Salut maman.
Oh ma fille.
Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée?
La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là?
Bah alors Béguin, tu t'es perdu?
C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre.
Ah.
Je suis là parce que mon père avait un infarctus.
Ah merde.
Et oui, Cécile a 40 ans, une carrière en pleine lumière et des pressions qui s'accumulent. Chef médiatisé, l'ancienne candidate de l'émission télé Top Chef, est à 2 semaines de l'ouverture de son propre resto pour lequel elle n'a toujours pas trouvé son plat signature, censé représenter à la carte son identité de chef. Comme si cela ne suffisait pas, elle apprend qu'elle est enceinte et reçoit un coup de fil de sa mère qui lui annonce que son père vient de faire un infarctus. Cécile décide alors de rentrer dans le Loir-et-Cher de son enfance, filer un coup de pouce à ses parents restaurateurs, eux aussi, dans un routier, l'escale. Ce retour aux sources d'abord contraint va faire ressurgir souvenirs différents familiaux. Le père a notamment consigné dans un petit carnet toutes les sorties de sa fille dans chaque épisode de Top Chef qu'il a pas digérer pour les lui reprocher. Et renaissent aussi les amitiés et amours passés qui se déclinent au présent dans cette capsule temporelle où rien ne semble avoir bougé. Ce que renforce évidemment les numéros musicaux hein, qui reprennent les tubes des années 90 et 2000, de Camaro à Céline Dion en passant par Dalida et évidemment les 2B3. Partir un jour ravive la mémoire affective des millennials et plus largement de toutes celles et ceux que ces refrains accompagnent encore.
Qui dit crise ?
Dit monde, dit famine, dit tyrannie.
Qui dit amour ?
Dit les gosses, dit toujours et dit divorce.
Alors on danse.
En inversant la focale de son court-métrage, Amélie Bonin ancre la version longue dans un parcours au féminin, raccord avec son travail en tant que DA dans la revue féministe La Déferlante. À travers Cécile, un transfuge de classe qui rentre au pays, la cinéaste aborde des questions intimes sans jamais les surligner. La maternité, l'adolescence, le tiraillement entre Paris et les racines rurales, les liens familiaux avec lesquels il est parfois délicat de composer. Et même si les thématiques abordées semblent faciles, le film cueille, notamment par la qualité de son écriture, un sens du rythme remarquable, malgré quelques légères irrégularités, hein, et une caractérisation de ses personnages très riche. Partir un jour est vraiment drôle, doux, amer, souvent mélancolique, mais surtout juste. Que ce soit dans l'humour ou les numéros chantés et dansés, ils viennent ponctuer le récit avec délicatesse comme des petites décharges émotionnelles, jamais gadgets, toujours à leur place et fonctionnelles narrativement. Juliette Armanet performe un jeu formidable de naturel, extrêmement sensible, entouré d'un casting solide et généreux. On rit beaucoup avec eux, jamais aux dépens des personnages hein, dont il émane une grande dignité. Ce qui donne in fine un film lumineux qui brille à Cannes sans les artifices d'un Annette ou de la Palme d'Or 2024 à Nora, mais avec la même fraîcheur dans son regard hein, sur ses marges populaires que Louise Courvoisier explorait avec tendresse dans Vingt Dieux par exemple. Amélie Bonin livre un film comme un refrain qu'on croyait oublié mais qu'on se surprend à connaître encore par cœur et qui ne nous quitte plus.
Partir un jour donc est un film que bien bon nombre de spectateurs français ont pu voir en même temps qu'il était projeté à Cannes. Ça, c'est quelque chose maintenant qui est en place hein, depuis quelques années. Parlons de cette 78e édition qui est lancée. Alors, c'est parti pour 12 jours de compétition et déjà des premiers feux allumés, hein, comme cette tribune signée par de nombreux acteurs et réalisateurs, dont des palmés hein, qui se demandent comment le monde du cinéma peut être aussi silencieux face à la situation à Gaza, sachant que Fatma Hassouna, héroïne d'un documentaire programmé dans le cadre du festival, a été tuée dans un bombardement israélien mi-avril. David Cronenberg, Pedro Almodovar, Suzanne Sarandon, Richard Gere ou encore Javier Bardem font partie de ces 380 artistes. Alors, ce n'est pas ce qui va gripper la machine, hein, qui propose comme chaque année plusieurs sélections. Alors, il y a bien sûr l'officiel, 21 films sont en compétition, dont 3 français. Il y a le film de Avzia Herzi, celui de Julia Ducournau, c'est-à-dire que celui-ci est très attendu puisqu'elle a déjà été palmée, et celui de Dominique Moll. Parmi les autres sélectionnés, il y a des habitués comme les Frères Dardenne, Wes Anderson, qui, dans mon souvenir, n'a jamais vraiment obtenu de choses, mais moi j'ai toujours plaisir à voir ces films là-bas. Il y a Kirill Serebrennikov, mais également 2 films iraniens, cette fois-ci, un de Jafar Pahani et l'autre de Saed Roustei. Comme l'an passé, des actrices sont devenues réalisatrices. Là, il s'agit de Scarlett Johansson et de Kristen Stewart dans la section Incertain regard. Et un des grands moments sera la présentation du dernier volet de Mission Impossible, Tom Cruise faisant évidemment le voyage, autant dire qu'il y aura des cris. Si on choisissait 5 films, alors plutôt, non, je vais tourner les choses différemment. Si je choisissais 5 films, ce serait Alpha, le dernier du Cournot, évidemment, Eddington d'Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone, rien que ça. Nouvelle Vague de Richard Linklater en hommage à Godard. Et puis peut-être Enzo de Laurent Cantet, film réalisé par son complice Robin Campillo, puisque Laurent Cantet est mort quelques jours avant le tournage. Mais Robin Campillo est son complice depuis longtemps, hein, puisqu'il est le co-scénariste de Laurent Cantet. Et puis, on pourrait terminer par Yes de Nadav Lapid, car c'est un réalisateur israélien qui n'est pas copain avec le pouvoir de son pays. Il n'y a pas que la compétition officielle, puisqu'il demeure donc la quinzaine des cinéastes, la semaine de la critique et l'acide. Il est certain qu'on ne va pas s'ennuyer et bien on vous en dira plus lors de la prochaine émission, puisqu'on aura déjà vu avec Sophia quelques films, notamment les films de la compétition. Cette 78e édition du Festival de Cannes qui vient de débuter, puisqu'on n'a pas grand grand-chose à dire dessus, eh bien, va nous permettre de jouer un blind test avec des films qui ont été palmés. Alors, bon, c'est des films plutôt récents, mais il y a peut-être des choses qui ne seront pas faciles à trouver. Je rappelle le principe du blind test. 5 extraits, il faut trouver le titre.
Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'il a été très choqué l'autre jour par la saisie. En fait, c'est pour ça qu'il en est arrivé à faire cette bêtise. Son père s'est fait tabasser sous ses yeux ce jour-là, c'est surtout ça.
Tabasser ?
Eh ben oui, quand ils ont tous débarqué à la maison pour la saisie, Ismaël, il s'est interposé, il voulait les empêcher d'emporter les affaires. La police était là, ils sont intervenus. Alors évidemment, ça a dégénéré.
Oui, évidemment, je comprends. Du coup, le gamin trouve rien de mieux que de se venger sur notre voiture, c'est ça ?
On peut dire ça, oui, monsieur Aydin. Je suis vraiment navré. Et maintenant, le petit s'en veut d'avoir fait cette bêtise. Vous ne le croiriez pas comme il s'en veut. Il le regrette. Il ne pense plus à rien d'autre.
Alors, pas facile parce que c'était la VF, mais c'est trouvé.
Je ne savais même pas qu'il existait une VF pour ce film, en fait.
J'ai été surpris.
Ouais, moi aussi. C'est Winter Sleep.
Oui, de Nouri Bilgeh Ceylan, film de 2014, donc qui a remporté la Palme d'Or en 2014. Un très long film, hein, plus de 3h15. Et tu as vu la version complète. Hein. Un comédien à la retraite tient un petit hôtel en Anatolie avec sa jeune épouse Nihal, dont il est sentimentalement éloigné, sa sœur Nekla, qui souffre encore de son récent divorce. Et en hiver, la neige recouvre la steppe et l'ennui ravive les cœurs. Il avait fait à peu près l'unanimité hein, cette année-là à Cannes, 360 000 spectateurs en France pour ce film, sachant que les Palmes d'Or, c'est à peu près ce qu'elles réunissent, hein, aux alentours de 300 000 spectateurs.
Et voilà. Pour un film quand même aussi long et exigeant, oui. C'est plutôt un bon score quand
oui,
même. Hein.
Parce que celui que nous allons entendre là maintenant, l'extrait, enfin, le film a remporté beaucoup moins de spectateurs.
Je commence vraiment bien à te cerner.
Ah oui.
Ouais. Ouais.
Vas-y, dis-moi.
Je crois que... Tu aimes bien te servir de ta position, qui bien sûr est une position de pouvoir, pour séduire tout un tas de femmes et accumuler des conquêtes. C'est ça que je pense, ouais. C'est ce que je pense. Désolée.
Et c'est à cause de ça que tu as couché avec moi ?
Non, je parlais pas de moi, là.
Ah non, ça marche pas sur toi, ça.
T'avoues que t'es comme ça, alors ?
Ça n'a pas fonctionné sur toi. Tu n'es pas attirée par le pouvoir.
Il y a un tas de facteurs, mais je crois pas que...
Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois...
Non, ça, je crois pas, non.
Et pourquoi tu ne veux pas reconnaître que le pouvoir est attirant ? Pourquoi ne pas le dire ?
Pas pour moi, non.
Ah non, t'es sûr ?
Ouais.
Ok, écoute, parce que moi j'ai un truc à avouer. Ça me rend super fier de t'avoir séduite.
C'est vrai ?
Ouais.
T'es super fier de m'avoir eue ?
Mmh. Parce que t'es une sacrée prise, je peux te le dire.
Hein ? T'as dit quoi ?
Parce que tu es une sacrée prise.
Alors, je me suis permis de laisser la séquence. Alors, pas dans son entier. Elle dure plus de 3 minutes, cette séquence. Alors, il faut savoir qu'ils sont dans un centre d'art contemporain et qu'il y a, il y a une sculpture en fond. Il y a un fond sonore. Et ce n'est pas la première fois que Östlund fait ce genre de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a un son qui perturbe le dialogue qui est au premier plan. C'est des choses que Godard pouvait faire aussi de son côté. Et ça a été trouvé. Donc, c'est...
The Square.
Et oui, Palme d'Or 2017 de Ruben Östlund. Pour résumer, ce sont les déboires d'un conservateur de musée d'art contemporain suédois qui plonge dans une crise existentielle. 351 000 spectateurs en France. À noter que Ruben Östlund est le seul réalisateur, à mon sens, à avoir eu tous ses longs métrages primés à Cannes, Un certain regard de Palme d'Or. Voilà, c'est dit. Troisième extrait de ce blind test consacré aux Palme d'Or.
En toute franchise, je vais très peu au cinéma, monsieur Lip.
Cet endroit, peu importe. Je te vois très bien venant ici en croyant que ça te ferait un handicap et qu'on ne voudrait peut-être pas un type nouveau dans la branche, pensant peut-être même qu'il y aurait toutes sortes de trucs complètement déments à savoir. Eh ben, tu te gourres. Il n'y a qu'un seul truc qui nous intéresse. Est-ce que tu sais raconter une histoire et nous faire rire et nous faire pleurer, nous donner envie de pousser la chansonnette en sortant ? Tout ça, ça fait qu'un seul truc, ok ? Mais moi, je dirige ce foutoir et j'y connais rien en charabia technique. Pourquoi je suis le patron ? Parce que je sens ce que les gens veulent voir, ce que veut le public. Et autre chose, j'espère qu'on te l'a dit. Je suis plus grand et méchant et gueulard que tous les autres youpins du coin. Tu lui as parlé de ça ? C'est pas que j'ai une plus grosse bite que toi, ça n'a rien de sexuel, c'est toi l'écrivain. Et tu sais forcément ça, café ?
C'est la bonne ambiance, c'est...
Et c'est donc Barton Fink de Joel et Ethan Coen.
Oui, les deux frères.
qui ont eu la particularité d'avoir eu à la fois le prix de la mise en scène et la Palme d'Or.
Ouais.
Je ne sais pas s'il y a un autre exemple.
Je ne sais pas, mais ils aussi...
Et il y a eu le prix d'interprétation
pour John Turturro.
Trois prix en une année, je crois que c'était la seule fois. C'est quand Roman Polanski était président du jury.
Ah oui, bah, autant dire que là, ça a fait carton plein. Un jeune auteur timide et effacé de pièces de théâtre new-yorkais tente sa chance à Hollywood. Et là, on l'entendait avec un producteur, 475 000 entrées en France. C'est encore un peu timide. Allez, quatrième extrait.
Tu veux que je te dise ? Tu crèves de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires pelopes, hein. T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est de descendre les types dans le dos, là, sans risque. Parce que les risques, tu les aimes pas, hein.
Mais je les aime pas parce que je les connais. Toi, t'es comme ça, tu comprends ? Tu fonces sans regarder, tu crois que t'es incassable. C'est facile parce que t'as pas d'imagination. Moi, je guette le caillou ou le trou qui va nous faire sauter.
Alors bah là, c'est des voix françaises, hein, vraiment.
Ouais.
C'est des acteurs.
Mais non.
Vous avez reconnu Yves Montand, peut-être ?
Ça a l'air de la peur ?
Oui, de Henri-Georges Clouzot.
J'étais pas sûr, parce que je ne me rappelais pas qu'il avait eu la Palme d'Or, en fait.
Eh si, Palme d'Or 1953, et puis Ours à Berlin, il a fait les deux.
Et les films qui restent avec nous, parce que des gens comme Beaujouan n'arrêtent pas de le citer, encore aujourd'hui, hein, les deux ou trois films essentiels de comme influence pour leur filmographie.
Ah ouais, et puis il y a eu un remake, il y a plus.
Non.
Ah monsieur, on peut en parler.
Non.
En Amérique centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d'argent à qui acceptera de conduire deux camions chargés de nitroglycérine sur 500 km de piste. Et quatre aventuriers sont du voyage. Et là, on peut dire que cette Palme d'Or a rempli les salles. 1,6 million d'entrées en France. Dernier extrait de ce blind test.
Et avec qui tu te marierais ?
J'en sais rien. Peut-être Crystal ou ta copine, Loulou. Elle est tellement sexy. Ou toi ? On est à Vegas. C'est une ville qui est connue pour les mariages, Vegas.
Arrête de déconner.
C'est pas du tout des conneries, ce que je dis.
Trouvé.
C'est Anora de Sean Baker.
Donc Palme d'Or 2024. Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Ce fut un triomphe à Cannes, ce fut un triomphe aux Oscars, hein, puisqu'il y a quand même 5 Oscars, dont celle de la meilleure actrice pour Mickey Madison, pourquoi pas, de la meilleure réalisation pour Sean Baker, et surtout l'Oscar du meilleur film. 653 000 entrées en France, et en plus, les gens se sont déplacés dans les salles françaises. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc aux Palmes d'Or, puisque nous refermons maintenant ce petit volet consacré à la 78e édition du Festival de Cannes qui a débuté. Le montage d'une table basse mène à l'enfer. Nous parlons d'accidents domestiques.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Accidents domestiques sort enfin sur les écrans après avoir écumé les festivals depuis 2 ans, en fait. Ce qui permet de découvrir le travail du catalan Caillé Casas, son précédent long, hein, Mataradios, n'ayant pas eu droit à une exploitation en salle. Alors tourné en 10 jours avec un budget dérisoire, le film est clairement divisé en 2 parties distinctes situées dans 2 lieux différents. La première, la plus courte, hein, a des allures de court-métrage à part entière, affolante exposition hilarante, Maria et Jésus, ça ne s'invente pas, un couple bizarrement assorti qui viennent d'avoir un enfant, se disputent dans un magasin de meubles qui ressemble davantage à un entrepôt désaffecté qu'à une boutique moderne clinquante. Alors face à eux, un vendeur présenté comme un margoulin débite les pires arguments commerciaux pour leur refourguer une table basse, cette fameuse Mesita del Comodoro, titre original du film, qui est d'une laideur absolue, hein, et qui, pour ne pas gâcher le plaisir, est excessivement chère. La méchanceté affichée sans honte par les auteurs fonctionne à merveille. Caillé Casas joue sur un comique de situation avec une jubilation qui laisse augurer le meilleur pour la suite. Alors on pense évidemment au cinéma d'Alex de la Iglesia, hein. La bêtise de ce couple plus si jeune, hein, rejoint la galerie de personnages un peu idiots du crime farpé. Évidemment, Jésus va finir par convaincre Maria d'acheter cette table quand même vraiment, vraiment affreuse.
Es una mierda.
¿Que no has metido un tornillo que falta para el cristal en la caja, los putos suecos estos?
Son las putas de los suecos, cariño. Es culpa del cutre del vendedor que te ha estafado con la mesita.
Ce segment décoiffant ne dure que 15 minutes, hein, heureusement très important dans la structure du récit à suivre. Hein. Ensuite, une autre séquence est très amusante, hein, retient quand même l'attention. Cette table n'a rien de rare et local, contrairement à ce que prétendait le vendeur. Ce n'est rien d'autre qu'un produit suédois, en fait. Il le découvre à un moment sur la tranche. Pas la peine d'en dire davantage, en fait. Hein. Pour la suite, impossible de parler du film à moins de dévoiler alors non pas vraiment un twist, mais un événement, on va dire, tragico-gore, qui va emmener le film dans une direction plus inattendue, celle de la farce anxiogène, impliquant le spectateur qui en sait davantage que la plupart des personnages. Alors Kayas parvient à infuser un sentiment de malaise, hein, qui ne vous quittera pas. Hélas, et là, bon, ça ne regarde que moi, hein, je trouve que le film, une fois la situation bien installée, s'étire inutilement, hein, pendant près d'une heure. Les bonnes idées sont étouffées dans l'œuf par une mise en scène sans réelle imagination, répétant quand même les mêmes situations éculées. Alors en format court, Accident domestique aurait été remarquable. Alors sur 1h30, il en résulte un film quand même assez divertissant, mais souvent poussif, alors sauvé quand même par l'abattage des comédiens, vraiment excellent. Mais quel début, hein. Et puis je suis content, j'ai réussi, je pense, à ne pas faire deviner les spectateurs ce qui se passe.
Accident domestique est en salle depuis le 14 mai. Nous parlons du dernier opus de Balles perdues qui est sur Netflix.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
On l'a reçu juste après la fermeture de la brigade.
Je suis pas venu pour l'Alpine. Je veux récupérer la Renault 21.
Ça fait longtemps que j'ai mis à la casse, moi.
T'as détruit la 21 ?
Alors après Balles perdues en 2020, Balles perdues 2 en 2022, voici la fin de la saga mettant en scène donc Alban Lenoir dans le rôle de Lino, hein, qui débarque une nouvelle fois sur Netflix. Alors d'ailleurs, hein, à l'international, pour bien signaler que c'est le dernier opus, Balles perdues 3 est titré Last Bullet, soit la dernière balle, même si la fameuse balle perdue qui avait donné son nom au film est depuis bien longtemps plus au centre de l'intrigue. Alors le terme saga est quand même bien évidemment surprenant car personne n'avait vu venir, hein, le gros succès du premier film sur la plateforme, consécration du travail de Guillaume Pierret à la réalisation et Rémy Lhotti à la production. Les deux s'étaient fait connaître, hein, avec des tournages indépendants de courts-métrages d'action, dont Matriarche en 2012, qui faisait déjà parler la poudre et cabossait des voitures dans les rues de Sète. Alors un bien beau chemin parcouru, mais pour un bilan en demi-teinte, hein, à l'heure de rendre l'ultime copie.
La corruption d'Alexandre Reiss touche l'ensemble des services des stupes.
À quel point il faut être ravagé pour revenir ici? C'est fini, Reski. Je devrais pas t'enfuir.
Je veux plus fuir. Reste une chose, j'ai de quoi envoyer Rezanto jusqu'à la fin de ses jours.
Alors l'histoire de Guillaume Pierret et Rémy Lhotti est une belle success story, hein, comme les aiment les Américains, hein, des passionnés qui vont réussir à conquérir le monde grâce à l'appui inattendu d'une plateforme internationale et qui va permettre de redonner un second souffle au film d'action made in France. Sauf quelques exceptions, hein, il est vrai que l'Hexagone n'est pas particulièrement prolixe, hein, en ce qui concerne l'action, surtout depuis que Luc Besson, via sa société Europacorp dans les années 2000, a raccroché les gants. Alors la nature a horreur du vide et les deux compères ont tellement su convaincre les spectateurs que depuis, ben, Netflix semble impatient de continuer à produire de l'action dans la langue d'Olivier Marchal au kilomètre, hein, et qu'on voit poindre du nez même des films signés par des gens de l'écurie Balles perdues. D'ailleurs Vincent, t'avais chroniqué récemment l'un d'entre eux, hein, puisque t'avais parlé de Rapide de Morgan Dalibert, le directeur de la photographie qui a emporté avec lui Alban Lenoir. A noter que Rapide est le seul film de cette écurie à avoir atteint le grand écran, car Aka, donc du même Dalibert et aussi avec Alban Lenoir, et bien sûr les trois Balles perdues, eux, se sont cantonnés au petit écran. Ben, au vu du résultat, on comprend pourquoi on reste dans une consommation de plateforme, hein, et c'est aussi pourquoi, hein, les films doivent rencontrer un tel succès dans ce format. Car arrive la partie pas très agréable, hein, celle d'être assez honnête avec ce troisième volet et du coup, ben, l'ensemble de la saga. Balles perdues 3 commence, hein, par une petite satisfaction, celle de voir l'abandon quasi total de la caméra à l'épaule ultra secouée qui rendait les affrontements, hein, alors surtout ceux mano à mano, hein, complètement illisibles. Les cascades mécaniques impressionnantes car toutes faites en dur, hein, s'en retrouvaient amoindries par une esthétique hasardeuse et franchement vilaine. Pierret et Lhotti ont toujours revendiqué leur amour du travail de Paul Greengrass, hein, sur La mort dans la peau, qui avait en son temps effectivement redessiné la manière de filmer l'action à Hollywood, mais pouvait aussi être vu comme une très 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 mauvaise copie du filmage caméra à l'épaule de la série 24 initiée par Stephen Hopkins et surtout par John McTiernan dans le chef-d'œuvre Une journée en enfer en 1995.
Faire tomber Rez, c'est rendre justice à Charas.
Je serai super discret, tu me remarqueras même pas.
À partir de maintenant, Areski redevient ma priorité.
Quel est le plan, commandant ?
Il n'y a pas de plan. Quoi qu'il arrive demain, ça va être sanglant.
Et de Une journée en enfer, bah, il en sera question ici, hein, puisqu'une course-poursuite dans un parc y fait clairement référence. Les amateurs y retrouveront aussi de gros emprunts à Terminator 2, entre un camion qui n'a techniquement rien à faire là, mais qui est celui du T-1000, et un hélicoptère qu'il va falloir dézinguer. Alors, moyens différents mis de côté, la comparaison est bien évidemment pas à l'avantage de Balles perdues 3, qui se permet d'être même un peu ennuyeux, même dans ses scènes d'action, hein, pourtant pas désagréable à regarder, mais platement filmé. Hein, y a en fait que le montage, hein, qui sauve un peu la mise. La La formule toujours assez mal écrite, platement interprétée et désormais totalement mécanique empêche notre indulgence de passer outre la paresse qui s'est installée. Bref, j'aimerais franchement défendre l'entreprise, hein, mais quand tout est résumé de manière plus dynamique et intense dans la bande-annonce depuis 2 épisodes, c'est malheureusement franchement difficile.
En tout cas, ce bal perdu, dernier volet, est sur la plateforme Netflix.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
La semaine prochaine, nous aurons mis les pieds à Cannes, donc nous en parlerons. Et puis, toi, tu as un film, Manu.
J'en ai un film qui s'appelle Oli.
Et puis toi, Guillaume.
Moi, un film qui s'appelle Libertate.
À la semaine prochaine.